Nouvelle semaine de découverte sur Destination, une profession méconnue, peut-être un peu tabou, et nous allons briser ces tabous tout au long de la semaine avec notre invité, Philippe Hustas, qui est thanatopracteur municipal à la ville de Limoges. En un mot, thanatopracteur, en quoi ça consiste?
Eh bien, la thanatopraxie, ça consiste à faire des soins de conservation sur les personnes qui sont décédées et qui ont pour objectif de retarder le processus de transformation du corps suite à un décès.
Vous, votre parcours, ça fait longtemps que vous êtes dans cette branche-là, j'allais dire presque 20 ans, 19 comme ça, on vous froisse pas.
Ouais, ça fait 19 ans effectivement que j'ai passé mon diplôme de thanatopracteur à Montpellier. Je suis rentré à la mairie de Limoges et je suis rentré au service funéraire par plusieurs biais. Et donc, je me suis intéressé, moi, à la thanatopraxie parce que j'avais des collègues qui étaient déjà sur place et c'est un métier qui m'a attiré.
Votre formation, c'est long. Je suppose que la thanatopraxie englobe de très, très nombreux domaines.
Il y a une vingtaine d'années en arrière, lorsqu'on passait le diplôme de thanatopracteur, moi, je l'ai passé à Montpellier. Il y avait une école qui s'appelait l'ENATEF, qui nous faisait passer notre diplôme de thanatopracteur. Et lorsqu'on avait notre diplôme, on pouvait officier. En 1996, il y a eu une réforme. L'école publique donc a fermé et ce sont des écoles privées qui ont pris le relais, qui coûtent beaucoup plus d'argent, on va dire.
Ça veut dire qu'on demande aussi beaucoup plus de choses aujourd'hui à ceux qui voudraient postuler à cet emploi-là.
Voilà, d'ailleurs, on le voit parce qu'il y en a de moins en moins des personnes qui postulent. C'est beaucoup plus difficile de passer le concours de thanatopracteur maintenant parce qu'il demande, on va dire, un niveau d'études qui est quand même assez élevé. On parlait de deuxième année de médecine, donc c'est vrai qu'une personne qui a 2 ans de médecine derrière lui, venir dans les pompes funèbres pour faire un thanatopracteur, j'en connais pas beaucoup.
Il y a des différences, on l'a dit, vous êtes thanatopracteur au service de la ville de Limoges, thanatopracteur municipal, des différences avec le privé, sans rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça change?
Dans les grandes lignes, un thanatopracteur du service funéraire dans une municipalité est employé municipal, donc est rémunéré par le maire, et un thanatopracteur du service privé est rémunéré aux soins.
Il peut y avoir une petite différence.
Je dirais même une grosse différence, mais bon, voilà.
Quelles sont les grandes qualités qu'il faut indispensables pour bien évoluer et puis être là encore au bout de 20 ans?
La rigueur dans le métier. On peut pas faire n'importe quoi sur un corps, faut être vraiment attentif et respectueux par rapport au corps. On n'a pas le droit à l'erreur quand on fait un soin de conservation. On peut pas se permettre.
Beaucoup de rigueur, mais ça veut dire aussi que psychologiquement, on est confronté à la mort au quotidien ici. Ça aussi, ça demande une préparation. N'importe qui ne peut pas forcément venir affronter tout cela tous les jours.
Oui, effectivement, c'est assez compliqué. Mais bon, moi, je fais la transition quand je suis au travail, et lorsque j'ai franchi le portail, c'est fini. C'est une autre vie, c'est ma famille, ça s'arrête là.
Et socialement, justement, c'est intéressant. Comment on voit votre métier?
La réaction, c'est « Oh, c'est dégoûtant » et ils veulent pas entendre parler. Mais par derrière, c'est « Vas-y, explique-nous comment ça se passe. » Parce que c'est beaucoup de la curiosité, en fait.
Notre deuxième rendez-vous cette semaine dans l'univers de la thanatopraxie. Nous découvrons ce métier de thanatopracteur en compagnie de Philippe Hustas, qui est thanatopracteur municipal à la ville de Limoges. Peut-être que le son, vous l'entendez, aura légèrement changé, puisque je me suis équipé depuis le dernier rendez-vous, la combinaison et le masque sur le nez et sur la bouche pour parler de ces soins de thanatopraxie. Et là, face à nous, il y a ce corps dont vous allez vous occuper. Les premiers gestes, c'est quoi? C'est peut-être, entre guillemets, de faire déjà connaissance avec le corps que vous allez avoir à traiter?
Voilà, regardez un petit peu son visage, voir s'il y a des rougeurs qui se sont installées au fil du temps, comme c'est un corps qui est décédé depuis, on va dire, plus de 24 heures. Donc il y a des marques rougeâtres qui se sont installées et qu'on va essayer de faire disparaître.
Donc ça, c'est un décès naturel, hein?
C'est un décès naturel, oui.
Juste, en remontant dans le temps, votre premier corps, le premier corps dont vous vous êtes occupé, je crois que c'est d'ailleurs un corps très concret, c'était pas du tout pendant la formation.
Oui, c'était en 92, j'étais avec Dominique.
Précisons que Dominique, vous allez faire ce soin à deux. Voilà, hein.
Dominique Tallet, c'est mon collègue du service funéraire. Et donc, le premier corps que j'ai vu, donc, c'était en 92. Et là, ça m'a fait bizarre lorsqu'il a pris le scalpel et qu'il a incisé pour aller chercher une artère.
Même si on s'y prépare, même si on a choisi d'être dans cet univers-là, c'est toujours un peu difficile de faire le premier pas.
Oui, mais j'étais pas prêt là. Et puis bon, il m'a pas demandé, il l'a fait et puis voilà.
Les corps ne sont pas forcément les mêmes en fonction du type de mort?
Non. Là, on a une personne qui est décédée d'une mort naturelle, qui a priori n'avait pas de traitement. Donc là, c'est un corps, on va dire, facile. Bon, il y a d'autres corps qui sont traités par chimio, qui sont un peu plus difficiles à traiter parce qu'ils sont de couleur jaune. Ensuite, nous avons les accidents, accidentés de la route, où malheureusement, il y a souvent des plaies béantes, des choses comme ça qu'il faut recoudre. Et puis, les réquisitions de personnes qui sont décédées depuis plus longtemps.
Vous intervenez uniquement ici, jamais à domicile ?
Non, on ne va pas à domicile. On préfère rapatrier les corps sur la chambre funéraire. Déjà, on a un lieu qui est adapté. À domicile, on est en présence de formol, donc on n'a pas d'aération. Et on respirerait ce produit qui est nocif pour la santé et cancérigène.
Question bête, on dit souvent ça sent la mort, ça pue la mort. La mort a une odeur pour vous ?
Oui, tout à fait, oui. La mort a une odeur, effectivement.
Et votre travail, c'est de faire que cette expression ne veuille rien dire.
Voilà, exactement. Nous, on traite le corps de façon à ce que, effectivement, il ait une hygiène irréprochable.
Sur les timings d'intervention, comment ça se passe ? Vous travaillez le plus souvent dans l'urgence. Quand un décès intervient, on fait appel à vous très rapidement.
Voilà, tout à fait. On essaie de travailler dans les 12 premières heures du décès, où là, le soin, on sait qu'il va être optimal.
Avant de passer à la phase active dans nos prochains rendez-vous, un dernier mot sur l'évolution. Vous, ça fait 20 ans que vous êtes dans le domaine. La vie, on va dire, des Français et des Limousins a changé en matière d'alimentation, par exemple, ou de soins. Ça a eu des conséquences pour vous sur le traitement des corps ?
Oui, effectivement, on a des personnes qui sont quand même, de plus en plus costauds. Donc, des drainages, en fait, qui sont de plus en plus longs. Et...
Ça veut dire aussi que c'est un coût supplémentaire ? C'est du temps passé en plus ?
Un coût supplémentaire, non, c'est pas énorme. C'est du temps passé en plus. Mais nous, on n'est pas là pour faire du rendement dans le service public. On fait les choses bien et on prend le temps de les faire. On a une image de marque à respecter et on doit, par rapport aux familles, ce devoir.
Troisième rendez-vous dans l'univers des thanatopracteurs, ce métier que nous découvrons depuis le début de la semaine en compagnie de Philippe Hustas, thanatopracteur municipal à la ville de Limoges depuis quasiment 20 ans maintenant. On va vraiment parler du travail très concret là, que vous effectuez avec votre collègue Dominique qui est en train de travailler, et on va voir en quoi dans une seconde. Juste avant de procéder, on va dire, au traitement du corps finalement, il y a des petites choses à faire, il y a des premiers gestes qu'on effectue sur le corps du défunt.
La première chose à faire, c'est qu'on met un corps nu. On vérifie qu'il n'y ait pas de trou d'aiguille, parce que lorsqu'on envoie notre produit, ça risquerait de faire sortir du sang et d'en mettre partout. Et puis ensuite, on regarde l'état du corps au niveau des oreilles. Il y a une rigidité cadavérique qui est installée. Donc, à l'aide de massage, on va essayer de d'éraidir les bras, les jambes, les doigts, pour que le fluide passe bien dans les veines lorsqu'on va envoyer notre produit.
Alors, on va expliquer les phases d'après. Je préfère tout de suite prévenir les âmes un peu sensibles que c'est peut-être le moment de s'éloigner un peu du poste, parce qu'on va parler de choses, effectivement, qui font partie de la vie, hein, tout simplement, mais qui sont peut-être pas forcément supportables pour les âmes les plus sensibles. Sur ces premières opérations, avant de pouvoir envoyer le liquide, ce sont des opérations qui ont été faites, là, il y a quelques instants, par Dominique.
Voilà, Dominique a fait une incision, là, au niveau du cou, pour aller dégager l'artère carotide, mais il aurait pu très bien la faire au niveau de la cuisse pour aller chercher l'artère fémorale, ou bien au niveau du bras pour aller chercher l'artère humérale.
Donc on va chercher cette artère,
cette carotide que l'on sort, et on va y insérer un tube qui va nous servir pour injecter une solution dosée à 24%. C'est un liquide artériel mélangé avec de l'eau que nous allons envoyer dans le corps du patient pour pousser le sang au cœur et pour remplacer le sang par ce produit. Le sang, en fait, amène la putréfaction.
D'où l'intérêt de l'évacuer. Donc c'est ce qui va se passer maintenant. On va mettre la machine en route. On est parti pour combien ? 8 litres ?
On est parti pour 8 litres. On va mettre le corps en pression et on va mettre ce qu'on appelle un trocar au niveau du sternum pour pouvoir aller récupérer le sang au cœur. C'est parti.
Ça, c'est une opération qui dure combien de temps ?
Là, ça va durer environ pour envoyer, on va dire, les 4 premiers litres, parce que l'étape se fait en deux fois. Il y en a pour 5 minutes pour envoyer le liquide. Donc ensuite, on va planter le trocar dans le cœur.
Ça, c'est assez impressionnant de planter. Donc c'est un long tube.
Une flèche. En fait, c'est une flèche qui est creuse et qui aspire le sang à l'aide d'une pompe, en fait, qui est relié à des bocaux jetables.
Et donc là, on profite de ce cycle pour effectuer quelques massages sur le corps. Donc.
Voilà. Il est en train de masser le visage afin de faciliter le passage du fluide pour remplacer le sang. Et là, on s'aperçoit que, ben, effectivement, ça, il commence à avoir la même couleur que son torse. Voilà, donc on a envoyé à peu près 6 litres. On va arrêter d'envoyer du fluide dans les artères côté bas. Et oui, ça fait un peu de bruit, désolé. Et on va drainer maintenant la tête. Donc Dominique va enlever la canule. Il va la changer de côté. Il va le mettre en direction de la tête. Pardon. Voilà, donc maintenant il va rallumer le portiboy où est situé le fluide.
Donc c'est 6 litres et demi dans le corps et 1 litre et demi, 2 litres au niveau de la tête.
À peine. On voit que là, ben, commence à avoir, on va dire, une jolie couleur. Voilà, donc on va arrêter.
Et puis évidemment, on parle depuis tout à l'heure d'opérations effectivement qui ressemblent à des opérations de chirurgie, ce sont des opérations de traitement de ce corps. Ça veut dire qu'il y a aussi des risques pour vous, des risques sanitaires. Ça demande aussi un respect des règles absolument draconiennes.
Oui, tout à fait. On se sert d'instruments de chirurgie tels que scalpels, ciseaux, les pinces, des crochets, des trocars. Ce sont des choses qui sont pointues, coupantes. Donc, il faut faire très attention à ça.
Si on parle de questions très pratiques, avec ce produit qu'on injecte, on peut jouer sur les délais de conservation d'un corps ?
Oui, suivant le produit qu'on va mettre, suivant la dilution qu'on va utiliser, effectivement, on va jouer sur le temps de conservation du corps. Sur une personne à qui on a fait un soin de conservation, ça nous est arrivé de garder le corps en salon plus de 7 jours parce que la famille était à l'autre bout du monde. Hein. Donc c'est vrai qu'on a fait l'inhumation au bout de 7 jours, le corps n'avait pas bougé, c'était impeccable. Si vous laissez une personne 7 jours sans soin de conservation, forcément il y a une thanatomorphose qui va s'installer. Et puis là, ben, on va dire que ça va se dégrader à vitesse grand V. Au bout de 3-4 jours déjà, vous aurez de graves problèmes.
On va, dans notre prochain rendez-vous, passer à une autre phase. Ce sont ces finitions, on va rhabiller le corps, on va passer à cette phase de maquillage. Pour permettre ensuite à la famille de retrouver un défunt, peut-être comme il souhaite le conserver dans son souvenir.
Voilà, un défunt qui, à leurs yeux, ben, en fait, dort et qui est toujours présent.
Avant-dernier rendez-vous de cette semaine consacrée au métier de thanatopracteur, nous sommes toujours en compagnie de Philippe Hustaz, qui est thanatopracteur depuis presque 20 ans, ici à la ville de Limoges, thanatopracteur municipal. Cette équité sur des actes, le traitement véritablement du corps et de l'intérieur de ce corps, il y a d'autres manipulations à effectuer avant les finitions.
Oui, voilà. Lorsqu'on a fini de retirer, on va dire, le sang à l'aide du trocar, ben là, comme mon collègue est en train de le faire, il est en train de mettre du coton dans les narines et dans la bouche. Et ensuite, nous allons injecter une solution de cavité diluée à 22% pour sécher les organes que l'on a percés à l'aide du trocar.
Donc là, pendant ces opérations, du coup, on récupère les habits que la famille vous a confiés, avec lesquels elle souhaite voir habiller le défunt.
Oui, donc la famille nous amène des habits et nous les mettons sur la personne, nous habillons la personne à la fin du soin.
Donc on va vous laisser tranquillement le préparer.
C'est bon ? C'était bon.
Donc là, on va passer sur la partie soins véritablement esthétique. Là, vous faites le shampoing tout bêtement. Là, on est vraiment sur le visuel du corps que vous allez rendre à la famille.
Hein. Voilà, tout à fait. Donc on va faire un shampoing à ce monsieur. Parce que on estime que le shampoing, le rasage, on le fait à chaque corps. L'aspect visuel, très important.
Donc le shampoing est fait, maintenant c'est une autre étape. C'est un homme en l'occurrence, donc là, un petit peu de rasage.
Oui, voilà, on va le raser pour qu'il soit, on va dire, encore mieux.
Et donc là, c'est vrai que vous êtes en train de faire les finitions, donc coiffure, un petit peu de maquillage. La question, c'est, vous ne le connaissiez pas avant qu'il arrive ici, comment on arrive à être au plus près de ce qu'il était au quotidien pour que la famille le reconnaisse, comment on ne dénature pas le corps du défunt?
Mais là, dans le cas présent, on voit bien que le monsieur est peigné en arrière, vu son implantation de cheveux. Et puis lorsqu'on a séché, les cheveux se sont mis naturellement à leur place. Donc dans ce cas-ci, on n'a pas trop de problèmes, on sait qu'on ne s'est pas trompé. Maintenant, ça nous arrive de nous tromper, de mettre une mèche à gauche alors que c'est à droite. Mais la famille sait nous le dire lorsqu'on leur présente que ben, ils préféraient que la mèche soit à droite ou à gauche. Donc à ce moment-là, on fait une petite intervention dans le salon, juste pour remettre comme il faut les cheveux.
Et le maquillage, c'est pareil? Une femme va peut-être beaucoup se maquiller, une autre pas du tout. Là aussi, c'est quoi? On se renseigne avant?
Voilà, là, on demande à la famille s'ils veulent qu'on maquille la personne. De temps en temps, la famille nous amène carrément le maquillage de la défunte. Et là, ben, c'est encore plus facile.
Donc on va vous laisser terminer de vous occuper de ce corps. Et puis dans notre dernier rendez-vous, on évoquera un petit peu les derniers aspects du métier et peut-être son aspect sociologique, social. Ce sera pour refermer cette semaine de découverte. Notre dernier rendez-vous dans l'univers de la thanatopraxie avec notre guide depuis le début de la semaine, Philippe Ustaz, thanatopracteur pour la ville de Limoges. On est à la dernière étape, on va dire, de votre travail. On est dans le salon funéraire. Le corps que vous avez traité tout au long de la semaine va être apporté ensuite ici dans la salle à côté, puisque là on est dans la petite partie salon. C'est là où la famille va pouvoir venir un petit peu se recueillir sans forcément être au contact du corps pour ceux qui ne le souhaitent pas.
Voilà, tout à fait. On est dans un salon qui a une petite partie avec des canapés et de l'autre côté de la baie vitrée. Et donc déposer le corps du défunt.
Juste d'abord une question toute simple. On a beaucoup parlé de ces soins de thanatopraxie. Est-ce qu'ils sont obligatoires lorsqu'on a un décès? Est-ce qu'il faut forcément que le corps du défunt passe par ces soins-là?
Non, pas du tout. Les soins de conservation ne sont pas obligatoires du tout. Ils sont conseillés à la famille lorsque l'état du corps le suscite. Sinon, si la famille est éloignée, parce que maintenant avec l'éclatement des familles, les gens repoussent les obsèques le plus possible, c'est-à-dire qu'on a les obsèques qui vont jusqu'à 3, 4, voire 5 jours.
Ensuite, il y a besoin d'une dérogation, je crois, au bout de 6 jours.
Au bout de 6 jours, oui, il faut faire une dérogation auprès de la préfecture. Mais dans ces cas-là, 3, 4 jours, on n'a pas besoin. Mais on conseille les soins de conservation pour que les familles qui sont loin puissent avoir quand même une personne reposée, on va dire, devant eux.
Ça joue sur quoi aussi? Ça joue sur la météo. Quand il fait, on se souvient de la canicule, les fortes chaleurs, forcément ça va avoir des incidences sur l'état des corps.
Voilà, tout à fait. Bon, l'avantage qu'on a ici, c'est que tous nos salons sont climatisés. Donc on réduit un petit peu la chaleur, mais bon, effectivement, quand il y a des fortes canicules, on préconise des soins de conservation pour les personnes qui restent plus de 2 jours.
Alors on l'a vu, hein, vous effectuez ce travail qui est votre travail quotidien depuis 20 ans. Est-ce qu'il y a des moments quand même plus difficiles que d'autres? On a parlé de personnes âgées, hein, c'est une continuité de la vie, donc ce qui paraît assez normal, mais on est parfois confronté à la mort de jeunes personnes, voire même d'enfants. Ça, c'est des moments particulièrement difficiles.
Oui, effectivement. Ça m'est arrivé une fois, dans mes débuts, de faire des soins de conservation sur une petite fille de 8 ans. Effectivement, je m'en souviens encore.
Ça veut dire qu'on se projette, on arrive vraiment à se détacher, ou on se dit, peut-être on est père de famille quand on est confronté à ce cas-là, et forcément on transpose.
Lorsqu'on fait le métier que je fais, il faut essayer de se détacher. C'est-à-dire, moi, lorsque j'ai franchi le portail, c'est fini. Je laisse la partie boulot derrière moi, et après j'ai ma partie famille.
Ça veut dire qu'il faut avoir une vie festive, peut-être plus accrue que les autres, pour vraiment compenser?
Entre guillemets, oui.
Ça donne le prétexte, voilà. En tout cas. Et ça veut dire aussi que quand on vit un deuil dans sa propre famille, en étant thanatopracteur, ça change les choses, on a un autre regard, on le vit plus facilement, ou au contraire, on se projette sur les soins qui ont été faits, c'est plus difficile à vivre?
Alors, ça n'a rien à voir. Lorsque ça nous touche de près, ben on est humain, hein. On n'est plus thanatopracteur, là, on est la famille, donc c'est différent. Hein. Un soin que l'on fait à une personne que l'on ne connaît pas, ma foi, bon, on fait notre travail. Lorsqu'on a un décès dans notre famille, c'est totalement différent.
Ça veut dire que c'est une évidence, un thanatopracteur ne va jamais s'occuper d'un membre de sa propre famille?
Jamais, à ma connaissance.
Et puis évidemment, on va finir sur une note positive pour ce métier. C'est une semaine qui a été peut-être un peu difficile à vivre pour ceux qui nous ont suivis. Avant tout, c'est un métier utile, je crois qu'on l'a bien compris. C'est pour le bien des familles, c'est finalement pour que les vivants, ceux qui restent, gardent une bonne image. C'est un vrai métier d'utilité publique.
Ah oui, tout à fait. La famille qui reste doit avoir un bon souvenir, on va dire, de la personne qui s'en va. Et puis, comme on dit, c'est une roue qui tourne, donc bon, tant que ça tourne dans le bon sens, ça va.